Nous sommes le lundi 26 septembre 2016 et voici Amélie Perrier pour son journal. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les diplomates parlent d'un nouveau Guernica en Syrie. Alep est en train d'être rasé totalement par les bombardements du régime. Alep qui résiste depuis 4 ans mais dont il ne reste plus grand chose aujourd'hui, nous dira un humanitaire.
Et nous irons au Conseil de sécurité de l'ONU où les accusations de crimes de guerre sont désormais ouvertement lancées contre le président Bachar el-Assad et contre son allié le plus fidèle, la Russie.
Les États-Unis devant leur télévision ce soir pour suivre le premier débat entre Clinton et Trump à 6 semaines de l'élection présidentielle. Débat à fort enjeu tant les deux candidats sont proches dans les enquêtes d'opinion.
En France, la semaine clé pour les salariés d'Alstom, rencontre avec le patron du groupe aujourd'hui, mobilisation demain et annonce du gouvernement vendredi, tout pour sauver les usines de Belfort.
Et la colère des médecins à l'hôpital, leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles et exigeantes et pourraient décourager les futures vocations, c'est leur crainte. C'est de la barbarie. Fini la diplomatie à propos de la Syrie. Les accusations de l'ambassadrice américaine à l'ONU contre la Russie, fidèle alliée du régime syrien, ne s'embarrassent plus de circonvolutions inutiles. Un drame se joue en ce moment à Alep, ville rebelle. Elle échappe au contrôle du président Assad depuis 2012. Ville martyre aussi. Un déluge de bombes est en train de la réduire à néant depuis la semaine dernière. Difficile dans ces conditions de récolter des témoignages sur place. Carlos Francisco est le chef de la mission Syrie de Médecins sans frontières. Il se trouve aujourd'hui à la frontière turque et est en lien direct avec les équipes, toujours à Alep.
Dans l'est d'Alep, les combats continuent dans certains quartiers, mais surtout les raids aériens continuent. Et c'est très difficile pour les équipes de secours d'accéder aux bâtiments effondrés, car ces bombardements sont intenses et ininterrompus. Les peu de médecins qui se trouvent encore à Alep sont débordés par le grand nombre de blessés. Ceux avec qui je parle viennent de m'envoyer des images où on voit les victimes soignées à même le sol. Il n'y a plus assez de lits. 60% de ces blessés sont des femmes, des enfants et des vieilles personnes.
Qu'attendez-vous de la communauté internationale des Nations Unies ?
Je ne sais plus si on doit espérer beaucoup, étant donné le fiasco de la trêve de la semaine dernière. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on cesse de tuer les civils, que l'on garantisse aux civils le droit de fuir et enfin que tous les acteurs humanitaires et les convois soient préservés pour nous permettre juste de porter assistance.
Voilà le cri d'alarme de Carlos Francisco, chef de mission Syrie de Médecins sans frontières. Il était joint par Mathilde Lemaire. L'espoir d'une fin de conflit n'a jamais été aussi mince, on l'entend. Et on l'a constaté hier aussi au Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence à New York. Charlotte Alix a suivi les débats.
250 000 personnes prises au piège, des immeubles qui s'effondrent comme des jeux de cartes sous le feu de bombes ultra puissantes. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a décrit une des pires semaines de ces 5 années de guerre.
Nous avons vu cette semaine les bombardements les plus soutenus et les plus intenses depuis le début du conflit, à Alep en particulier. Le niveau de ces bombardements est sans précédent en quantité, mais également en termes d'ampleur et de nature.
Des bombardements qui constituent, selon l'ambassadeur français et ses collègues occidentaux, des crimes de guerre.
Les renseignements dont nous disposons font état de l'usage systématique d'un nouveau type d'armement incendiaire et de munitions et sous-munitions perfectionnées permettant de perforer des bunkers et de causer l'effondrement d'un immeuble entier en un seul impact. L'usage de telles armes contre les civils ne saurait malheureusement nous surprendre de la part d'un régime qui, depuis des années, bombarde sa population au gaz de chlore, au phosphore ou au baril d'explosifs.
Des crimes de guerre qui ne doivent pas rester impunis, a ajouté François Delattre, tandis que son homologue américaine a pointé du doigt la Russie autant que le régime syrien pour ses atrocités.
Ce que la Russie fait n'est pas du contre-terrorisme, c'est de la barbarie.
Pour autant, la possibilité que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale est exclue. La Russie est un membre permanent du Conseil. À ce titre, elle peut bloquer toute demande de poursuite, ce qu'elle a déjà fait dans le passé.
Charlotte Alix, notre correspondante au siège de l'ONU à New York. Les États-Unis au rythme de la campagne présidentielle avec le rendez-vous du jour, le premier des 3 débats télé entre les 2 principaux candidats. 90 à 100 millions de spectateurs attendus devant leur poste pour suivre les échanges entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Une épreuve du feu pour chacun, tant les sondages se sont resserrés ces derniers jours. Alors comment se sont-ils préparés, cette fois encore de manière bien différente, Frédéric Carbone?
L'étudiante qui ne fait aucune impasse d'un côté, le dilettante sûr de lui de l'autre, voilà de quelle manière les deux candidats ont préparé ce débat crucial. Pendant qu'Hillary Clinton est enfermée depuis une semaine ou presque avec son équipe, Donald Trump met donc en scène sa différence. Il lance un appel à ses électeurs pour qu'ils lui donnent des idées, et ses supporters n'ont aucun doute. Voici l'acteur John Voight, une des rares vedettes d'Hollywood, à soutenir Trump. Tout va bien se passer. Il a de l'aplomb, il ne se soucie de rien, il ne se laisse pas gagner par le stress, il a confiance, il est sûr de lui, et ça c'est le plus important pour un débat. L'entourage de Donald Trump a quand même visionné tous les débats auxquels Hillary Clinton a participé pour repérer les moments de faiblesse. Quant à la candidate démocrate, elle a effectué plusieurs faux débats avec un faux Trump, en l'occurrence un de ses conseillers. Et son amie Lisa Muscatine la voit comme un picador dans l'arène autour du taureau. Si elle le provoque habilement avec son caractère d'adolescent indiscipliné, il peut dire n'importe quoi et cela peut lui coûter cher. C'est en fait la stratégie anti-Trump depuis le début, espérer la faute. Il en a commis beaucoup jusqu'à présent, mais aucune n'a été fatale.
La campagne américaine suivie par Frédéric Carbone sur France Culture. La fin d'un conflit long de plus d'un demi-siècle en Colombie. Le gouvernement et la guérilla des FARC signent aujourd'hui définitivement la paix à Cartagène, dans le nord du pays. C'est l'aboutissement de 4 ans de négociations. Un référendum dimanche prochain validera l'accord de paix. Le oui est donné gagnant à plus de 60%. La fin de ce conflit en Colombie, c'est un immense espoir, en particulier pour les familles des disparus. Des familles rencontrées par notre reporter sur place, Sarah Maquet.
Medellín, seconde ville de Colombie. Les femmes de l'association Les Mères de la Candelaria, chemise blanche, photo de leurs proches disparus autour du cou, entonnent chaque semaine depuis près de 18 ans ce même slogan. Nous les voulons libres, vivants et en paix.
Mi nombre es Teresita Gaviria y soy la directora ejecutiva de Madres de la Candelaria.
Teresita Gaviria, fondatrice de l'association.
On a commencé avec 7 femmes. Ici, personne ne voulait entendre parler des disparus. Tous disaient qu'on était folles. Regardez maintenant où elles en sont, les folles. On a reçu le prix national de la paix et regardez toutes les récompenses qu'on a. Nous sommes aujourd'hui 882 femmes qui représentent 1176 personnes disparues.
En Colombie, le nombre de disparus fait débat. Il serait 45 000 selon les estimations officielles. Mais selon Angel Medina Berrarano, responsable médico-légal à la Croix-Rouge, en 52 ans, le conflit armé aurait plutôt fait 80 000 disparus.
En Colombie, estamos en conflicto, lo cual implica que
en Colombie, nous sommes toujours en conflit, ce qui veut dire que beaucoup de gens ne signalent pas leurs proches disparus. En plus, les combattants essayent de cacher leurs victimes pour ne pas être inculpés plus tard.
Et qu'est-ce que les accords de paix vont changer pour vous dans votre travail au quotidien ?
Certains vont parler, dire où des personnes ont été enterrées. Beaucoup de nouvelles informations essentielles vont apparaître.
Les maires de la Candelaria ont en tout cas, elles, bien l'intention d'aller voter oui dimanche au référendum sur les accords de paix, avec l'espoir de connaître enfin la vérité.
Voilà le reportage de Sarah Maquet en Colombie. Quand l'obscurantisme tue en Jordanie. Il était écrivain, s'appelait Nahed Hattar. Il devait être jugé hier devant un tribunal d'Amman pour une caricature considérée comme offensante envers l'islam. Un homme lui a tiré dessus, le tuant de 3 balles. Un ancien imam apparemment arrêté dans la foulée. Une victoire et beaucoup de suspicions de fraude. L'Union européenne ne s'est pas privée hier de critiquer les travaux de la Cour constitutionnelle au Gabon. L'instance a validé dans la nuit de vendredi à samedi la réélection du président Ali Bongo. Réélection contestée par l'opposant Jean Ping. Les observateurs de l'UE au Gabon parlent d'une grande faiblesse du système électoral et d'évidentes anomalies.
8h08 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier, une semaine cruciale pour les salariés d'Alstom de Belfort.
Et oui, pour la première fois depuis l'annonce brutale de la fermeture de l'usine de Belfort, le PDG du groupe de construction ferroviaire doit rencontrer des représentants du personnel aujourd'hui. Demain, journée d'action prévue à Saint-Ouen et vendredi, le rendez-vous qui pourrait faire bouger les lignes, c'est le gouvernement qui doit annoncer les mesures censées convaincre le patron d'Alstom de ne pas fermer le site. Le point avec Isabelle Raymond.
Cet après-midi, ce sera la première fois que les syndicats d'Alstom seront face à leur patron depuis l'annonce du 7 septembre. Mais ils ne pensent pas qu'Henri Poupart-Lafarge aura grand-chose de neuf à leur dire. Ils devraient se contenter de détailler les raisons qui l'ont poussé à annoncer la fermeture de l'usine de Belfort à l'horizon 2018. Exercice qu'il répétera le lendemain devant les députés de la Commission des affaires économiques. Une audition publique précise la direction d'Alstom qui ajoute « Tout le monde va enfin pouvoir comprendre quelle est la situation réelle ». Au même moment, les salariés seront devant le siège du du groupe pour une journée de mobilisation. Les Belfortins ont même affrété un TGV pour l'occasion. Le mot d'ordre, ne pas relâcher la pression. Le gouvernement doit apporter des réponses en fin de semaine. Le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, l'a promis au syndicat. Il ne cherche pas des solutions à court terme, électoralistes. Et pourtant, les représentants des salariés ne sont pas très optimistes. À part anticiper la commande de CIRAM pour la ligne Lyon-Turin, de quoi donner du travail à Belfort pour 6 mois seulement, ils ne voient pas trop ce que le gouvernement pourra sortir du chapeau.
Et la colère aussi des personnels hospitaliers. Les médecins sont appelés à faire grève aujourd'hui. Mouvement national est reconductible et relayé dans tous les services, des urgences à la gériatrie en passant par la psychiatrie. Tous dénoncent des conditions de travail dégradées et des carrières dans l'hôpital public de moins en moins attractives, Bénédicte Robin.
Après la désertification médicale, voici la désertification de l'hôpital. C'est la crainte des praticiens du public que l'hôpital n'attire plus et que les médecins lui préfèrent les cliniques privées pour des raisons purement comptables, comptabilité des heures de travail d'abord. Hormis les urgentistes, les médecins ne comptent pas leurs heures, mais leurs demi-journées. Ils en doivent 10 par semaine à leur établissement, sans dépasser, sauf exception, la limite européenne des 48 heures de travail hebdomadaire. Le problème aujourd'hui, c'est que par exemple, si un médecin fait 2 gardes de 24 heures dans sa semaine, il atteint bien ses 48 heures, mais n'aura que 8 demi-journées à son actif. On lui en demande encore 2. Sa semaine peut donc grimper à 60 heures sans problème. Un médecin que j'ai pu joindre me disait même que cet été, il lui était arrivé d'avoir des semaines de 80 heures, et cela sans compensation particulière, repos ou rémunération. Aujourd'hui, c'est l'acte de soin qui compte, me disait un autre praticien. Si on veut se coordonner entre équipes pour le bien des patients ou participer aux réunions sur les projets de l'hôpital, c'est toujours en plus et ça n'est pas reconnu, poursuit-il. Lui d'ailleurs, il le quitte son hôpital après 10 ans dans le public. Au bord du burn-out, il a décidé de rejoindre le privé. La crainte, c'est que ce genre de décision se multiplie, que les jeunes boudent le public. Aujourd'hui, en moyenne, 20% des postes de praticiens hospitaliers sont vacants, compensés par des intérimaires, selon le syndicat SNPHAR, qui demande donc l'ouverture de vraies négociations avec le ministère de la Santé, pour l'instant un peu bloqué par la contrainte budgétaire.
Et ce malaise à l'hôpital, on y revient avec vos invités, Guillaume Herner.
Le professeur André Grimaldi, diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et Frédéric Valtoux, le président de la Fédération hospitalière de France.
À partir de 8h20. François Hollande sur tous les fronts, le président, pas officiellement candidat encore, se rend aujourd'hui à Calais pour la première fois de son quinquennat. Il marche sur les pas de Nicolas Sarkozy qui, la semaine dernière, avait rencontré les acteurs économiques de la région. Le chef de l'État verra également les élus, les représentants des forces de l'ordre et d'associations humanitaire. Le bidonville de Calais où survivent entre 7 et 10 000 migrants provoque la colère des entreprises locales et l'indignation des organisations d'aide aux réfugiés. Hier, c'est sur la question des harkis que François Hollande a occupé le terrain médiatique. Il a reconnu les responsabilités de la France dans l'abandon de ses combattants arabes aux côtés des forces françaises pendant la guerre d'Algérie, combattants pour certains massacrés après les accords d'Évian en 62. Cette reconnaissance était une promesse de campagne en 2012. Les harkis rapatriés en France et leurs descendants représentent aujourd'hui une communauté de 500 000 personnes. Une ville sans voiture et l'on respire immédiatement beaucoup mieux. Les véhicules étaient interdits dans les rues de Paris hier. Conséquence, une baisse moyenne de 20 à 35% de dioxyde d'azote observé sur les stations Air Paris. Et pour aller plus loin, la mairie de Paris a l'intention de piétoniser la voie express Georges Pompidou, cette voie rapide le long de la Seine, traversant toute la capitale. Le projet est examiné aujourd'hui par le Conseil de Paris et devrait obtenir sans problème les voies nécessaires malgré certaines oppositions, Véronique Rebérotte.
Il faudra que les 43 000 automobilistes parisiens qui empruntaient chaque jour la voie Georges Pompidou sur la rive droite de la Seine s'y fassent, celle-ci n'est pas prête de rouvrir. Fermée minimum 6 mois actuellement pour travaux, vraisemblablement 1 an, le temps de mesurer les impacts d'une future piétonisation. Christophe Nadjovski, adjoint chargé des transports à la mairie de Paris.
On va regarder comment vont évoluer les conditions de circulation, les conditions au niveau du bruit, de la pollution, et on aura donc une première étape d'ici 6 mois avec une étape définitive au bout d'un an. Qu'on soit bien clair, l'évaluation que nous ferons au bout de 6 mois, elle ne remettra pas en cause la piétonisation des berges avec une décision qui sera prise de piétonisation définitive. Et sauf, je dirais, catastrophe, sauf situation extrêmement difficile, c'est plutôt quelque chose qui nous permettra au contraire de poursuivre cette piétonisation. Toutes les grandes métropoles du monde ont mené des opérations de ce type, de reconquête des centres-villes, de transformation des autoroutes urbaines en boulevards urbains ou voire même en suppression des autoroutes urbaines. Et donc j'invite moi la droite parisienne et la droite francilienne à plutôt s'inscrire dans un mouvement favorable, d'aller vers l'avant et non pas regarder dans le rétroviseur la ville du XXe siècle de l'ère Pompidou.
Après le vote aujourd'hui au Conseil de Paris, la mairie de Paris devrait courant octobre prendre son arrêté de piétonisation.
Voilà pour les voitures. Dans les airs, il reste encore des efforts à faire. Cette pratique, par exemple, toujours en cours dans l'aéronautique. Hier, un Boeing d'Air France a connu un problème technique. Pour le résoudre, il a vidangé une partie de son carburant au-dessus de l'Île-de-France. Des dizaines de tonnes de kérosène larguées sur la forêt de Fontainebleau. Et justement, notre invité ce matin, c'est le maire de Fontainebleau, Frédéric Valtoux. Vous êtes en colère, apparemment.
Oui, je suis assez stupéfait que, non pas que la procédure existe en cas d'urgence, et il faut permettre aux avions d'atterrir et il faut pour ça qu'ils s'allègent. Mais au-dessus de la forêt de Fontainebleau, qui est fréquentée par 10 millions de visiteurs par an, et qui en plus est l'espace naturel le plus protégé de France, par exemple plus que la Camargue. C'est étonnant que l'État autorise ce type de pratique au-dessus de la forêt de Fontainebleau. Donc c'est une question que je poserai aujourd'hui au ministre des Transports, parce qu'il y a certains éclaircissements à avoir.
Merci beaucoup Frédéric Valtoux, maire de Fontainebleau. Le temps de ce lundi, instable à l'est, nous dit Météo France, des éclaircies ailleurs. C'est très frais ce matin avec 6 à 10 degrés sur la majeure partie du pays. Cet après-midi, de la douceur quand même avec 18 degrés à Dunkerque, 20 degrés à Paris, 21 à Strasbourg, 23 à Lyon et à Bordeaux, 25 à Marseille et jusqu'à 28 degrés pour les plus chanceux à Nîmes.